chers auditeurs, nous sommes les élèves de la première du Collège protestant français de Beyrouth. Dans le cadre de la Semaine de la presse, nous sommes ravis de vous présenter le thème de cette année, l'info sur tous les fronts. Mais que veut dire l'info sur tous les fronts? Afin de l'explorer, nous avons réalisé des enquêtes et des recherches au cours desquelles vous allez nous accompagner dans notre émission d'aujourd'hui. Celle-ci sera répartie en trois temps, les recherches, les avis différents sur cette question et à la fin, un débat.
Tout d'abord, les élèves de l'atelier Sciences Po,
Selim Ralaini et Nadim Reyes, vont nous introduire ce thème à travers un micro-trottoir partageant avec nous les points de vue d'élèves et de professeurs concernant l'info sur tous les fronts.
Bonjour, je représente les élèves de l'atelier Sciences Po. On a réalisé une enquête auprès de nos camarades et nos professeurs en leur posant la question « Qu'entendez-vous par la presse sur tous les fronts ?» Et voici les résultats de cette enquête.
La présence des journalistes sur les fronts de guerre, surtout en Ukraine.
Au début, nous remarquons que plusieurs réponses se basent sur la presse en temps de guerre.
La presse sur tous les fronts, c'est-à-dire la presse qui va partout, s'occupe de tous les sujets d'actualité et du moins qui ne reconnaît pas les frontières, que ce soit physiques ou intellectuelles.
De plus, elle traite les faits économiques, politiques et culturels.
Je pense que c'est l'actualité qui se passe dans tout le monde, sur différents domaines, à différents niveaux. On peut parler à l'échelle locale, à l'échelle nationale, internationale. Et ça peut aussi parler d'économie, de politique, de droit, de plein d'autres sujets d'actualité.
Mais encore, des réponses affirmaient que la presse sur tous les fronts, le fait de diffuser l'actualité sur différentes classes sociales et à plusieurs échelles, en diffusant de nouveaux sujets qui varient selon les pays. Nous constatons aussi que l'âge différencie la façon dont les personnes s'informent aujourd'hui.
Par les réseaux sociaux principalement, aussi l'actualité sur les nouvelles à la télévision.
Nous avons conclu que les plus jeunes se penchent plus vers les médias numériques en consultant les réseaux sociaux ou la presse numérique qui, eux, ne sont pas toujours fiables.
Principalement sur les réseaux sociaux parce que je suis abonnée à plusieurs sites d'information dans différentes langues et je lis les titres qui m'intéressent, le petit résumé et si je suis plus intéressée, je clique pour aller voir l'article en entier.
Nous avons ici la confirmation. Les plus âgés utilisent toujours les médias traditionnels avec une petite évolution en consultant des journaux numériques, ayant auparavant des éditions papier. Voilà le résultat de notre petite enquête. Merci.
Nous l'avons bien entendu. En effet, il existe différentes perceptions de ce sujet. Lançons-nous à présent en une autre approche, celle du club de lecture.
Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école, le club de lecture au Collège protestant français participe à ces 8 émissions de la web radio avec 4 de ses membres, Zoé Chidiac de la 6ème 1, Dima Ferhou de la 6ème B, Zina Shahar de la 6ème D et Rada Shahar de la 4ème D. Le thème de cette édition de la semaine de la presse et des médias dans l'école est l'info sur tous les fronts. Eh bien, parmi ces fronts, il existe bel et bien le front littéraire. Couvert par les chroniqueuses et les reporters littéraires, passionnés de tout nouveau dans le monde de la littérature. Nos 4 chroniqueuses en herbe nous vont partager les actualités littéraires sur le front de la littérature de jeunesse. Nous allons commencer par écouter ce que Zoé nous a réservé comme info littéraire.
Bonjour, je vais vous parler d'un livre qui s'intitule « Fantômes sur mesure », édité par École des loisirs en 2022. Dès le premier chapitre, nous sommes pris par le suspense. Comme son nom l'indique, un fantôme en est concerné, mais de quelle façon? C'est au lecteur de le deviner. Ce qui me plaît vraiment dans ce livre, c'est l'écriture qui nous garde en haleine et qui est riche en mots nouveaux et intéressants.
Merci Zoé et Chidiac. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as récolté comme info sur le front littéraire?
Eh bien, moi, j'ai une BD époustouflante à vous proposer. Elle est publiée en janvier 2023. Le titre est Yézidi. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille vivant au nord de l'Irak. Elle est kidnappée par des terroristes de Daesh. Notre héroïne, Zereh, essaye donc de s'enfuir avec l'aide d'une amie rencontrée dans la captivité. Comment vont-elles réussir à s'évader? À vous de le savoir. Vous n'avez qu'à lire la BD.
Merci, Dima.
Zina, je sais que tu es en train de lire un roman qui te plaît beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage?
Le roman s'intitule « Chronique des royaumes invisibles », tome 1. Il est sorti en février 2023, donc c'est tout neuf. C'est l'histoire de Casper Toc, qui est très timide et qui a peur de ses harceleurs en classe. En se cachant à l'intérieur d'une horloge, il se retrouve dans une contrée magique à grande étoile. Là-bas, il va faire la connaissance à une fille allergique aux règles et aux bonnes manières. Tous les deux vont vivre une aventure magique, voulant sauver grande étoile des griffes de Morgue, l'harpie voleuse de magie. C'est une histoire palpitante qui me plaît beaucoup. Et last but not least, Radha Charles de la 4ème V. À toi le micro.
Merci. L'histoire est un peu bizarre. En fait, le héros est le dieu grec Hermès, qui joue au détective. C'est une première. Il essaye de résoudre l'énigme d'une lettre anonyme qui le menace de mort. Je vais vous lire un extrait qui révèle l'ambiance de ce roman policier. Croquettes de cygnes et nuages acides, d'un souffle à l'autre, vent et voix, d'un ventre à l'autre, entre délices et sévices. Au croisement, je serai là. On dirait une lettre de menace, grommela-t-il. Visiblement, quelqu'un veut t'empoisonner, se dissoudre entièrement dans un bain d'acide ou te livrer à un peuple de cannibales affamés. Quel ennemi pourrait bien t'en vouloir à ce point ?
Ceci est vraiment intéressant. Maintenant, un peu d'actualité, plus précisément le 8 septembre 2022. Le décès de la reine d'Angleterre est une info qui a atteint les oreilles de personnes dans tous les recoins du monde. Regardons de plus près comment la presse britannique a-t-elle présenté ce sujet.
Good morning everyone!
So happy to be gathered here today.
It's a gorgeous day outside.
It is, but unfortunately there's some bad news.
What is it?
Queen Elizabeth has passed away. It's all over the news.
Ah yes, I saw an article about it in the Scottish Parliament discussing her death.
Yes, I saw one today in the Daily Nation, a Kenyan newspaper.
Me too! New Zealand was also discussing her death.
In Kenya, there were a lot of mixed reactions to the death of the Queen. While I was reading a few articles, I noticed that most of them were talking about the history that Kenya had with the British Empire.
Oh yes, they did have a complicated history, that is true.
Yes, they did. A newspaper called The Elephant wrote an article focusing on criticizing the British Empire and the history it had with Kenya. It talked about the British colonial times and how the Queen failed to recognize the damage her empire inflicted on the people of Kenya.
Wow, no way!
Yara, actually, a shocker.
Yes, some other articles also criticized the Queen, but also talked about the positive aspects the British Empire had on Kenya, like how Britain became an important trading partner and their contribution to Kenya's socio-economic progress.
And how did the people feel about her death? Did any article discuss that?
Yes, actually, there were several articles published on the Daily Nation, Kenya's top newspaper, that were focusing on the people's feelings. It was said that most people felt anger towards the Queen and the British Empire, and were not sad for her death.
What about Scotland? How did they discuss her tragic death?
I was reading some of the articles. I came across one of the articles that was published by The Scotsman on the 8th of September 2022. The article really focused on the Majesty's major role and impact on the British Empire. She was described as the figure of stability. She committed her whole life on serving her country and the Commonwealth.
That's the opposite of how most of Kenya's articles were talking about.
That's crazy.
Tell me more. Did they focus on anything in particular?
Like I said earlier, I was reading the article The Death of Her Majesty Queen Elizabeth II, published on the Scottish Parliament on the 20th of September 2022. The article in particular gives its condolences. The Scottish Parliament conveys its sincere condolences to the members of the royal family. That was stated in the article.
The New Zealand Herald is noting the Queen's long and successful reign and how she was held in high regard by many New Zealanders. Prime Minister Jacinda Ardern expressed her sympathies and recognized the Queen's extraordinary contribution to New Zealand.
Again, both of your countries seem to love the Queen, unlike Kenya.
Yes, they didn't have anything against the Queen. In fact, the Dominion Post reports that the Queen had visited New Zealand 19 times and often remarked on the beauty of the country and its people. The article also highlighted the Queen's work in Commonwealth, noting her commitment to strengthening ties between countries across the globe.
I agree with Karen. In Scotland, we don't have any tension with the Queen. She has always been on our side. Members of the Scottish Parliament are in personal grief acknowledging the significance of the loss of a figurehead. She represented the country for so long.
We could say that each country had a different perspective on the Queen's death.
Exactly. New Zealand and Scotland had a positive view on her death, unlike Kenya that viewed her death in a negative way.
You're absolutely right. Countries have different perspectives. We could all agree that Queen Elizabeth was the longest reigning monarch in history.
She transformed the royal family forever.
Her death shocked the world and was doggedly covered in the media.
Cela confirme vraiment qu'un événement peut être interprété différemment par la presse nationale. Passons maintenant de l'Angleterre à une région méditerranéenne, celle d'où nous vous parlons en ce moment même, le Liban. La spécialité SES nous parlera d'un présent vécu ici dans notre pays, la crise bancaire.
Liban, une crise sans précédent pour quelle issue ? Question du jour qui a intrigué les élèves de la première SP SES de Madame Safa du CPF, à laquelle ils ont tenté de répondre dans un contexte hors norme.
Situation économique très difficile, forte inflation, dévaluation de la livre libanaise, taux de chômage et de pauvreté jamais atteint, subventions aux importations suspendues, dettes élevées, dépression et suicide, autant de problèmes majeurs à résoudre. L'analyse d'articles présentant la vie d'acteurs clés a été nécessaire. Lecture autour de Riyad Salemi, directeur de la Banque centrale du Liban, Youssef Khalil, ministre de l'économie, l'Association des banques du Liban et l'avis de nombreux chercheurs universitaires ont permis de clarifier la situation. L'analyse a été suivie d'une table ronde et permet d'avancer le fait saillant suivant. Tous s'accordent autour des mêmes plans d'action. Autrement, aucune issue ne peut avoir lieu.
Le premier plan présenté est de former un gouvernement efficace pour améliorer la gouvernance et la transparence du secteur public, notamment en luttant contre la corruption. Deuxièmement, mettre en place des réformes économiques pour sortir le pays de la crise. Ensuite, augmenter les recettes fiscales de l'État et améliorer la stabilité financière du pays. Puis, restaurer le système bancaire pour restaurer la confiance. Et enfin, négocier avec les créanciers et le Fonds monétaire international pour obtenir une assistance financière.
Le Liban est dans une situation d'urgence et les plans d'action ne manquent pas. Comment expliquer cette inaction? Le peuple est pris en otage et se soumet à un quotidien asphyxiant, comme s'il était drogué. Combien de générations sacrifiées? Peuple libanais, réveille-toi, prends-toi en main, va à la recherche de tes droits.
Merci pour ce point de vue de vrai économiste. C'est une réalité partagée par notre peuple. Un autre exemple de crise qui s'acharna sur le Liban est celui des séismes. On se tourne alors vers la spécialité SVT qui partage les différentes croyances de ce sujet.
Le 24 février 2023, un séisme de magnitude 6,4 a frappé la Turquie, plus précisément l'ouest du pays. Cependant, il est important de noter que les informations trouvées sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours fiables. En effet, nous avons aperçu plusieurs et différents points de vue sur ces réseaux concernant le déclenchement de ce séisme. Nous vous répondrons à comment différencier les croyances présentes, quoi croire et surtout pourquoi. Le phénomène des séismes a été étudié depuis des siècles et a donné lieu à de nombreuses théories sur leur origine et leur mécanisme. Cependant, certaines de ces théories sont des rumeurs ou des idées fausses qui ont été refutées par des preuves scientifiques.
Les sismographes peuvent détecter les tremblements de terre lorsqu'ils se produisent et peuvent fournir des informations précieuses sur leur emplacement, leur magnitude et leur type de mouvement. Cependant, les sismographes ne peuvent pas prédire avec précision les séismes à l'avance. Cependant, des scientifiques utilisent des modèles sismiques pour évaluer les risques de tremblements de terre dans certaines zones à risque élevé. Ces modèles peuvent fournir des informations sur les probabilités de séisme dans une zone donnée, ce qui peut aider le gouvernement et les organisations à prendre des mesures préventives pour minimiser les risques et pour les populations locales.
Le climat n'a pas d'influence directe sur les séismes. Le climat, en revanche, se réfère aux conditions météorologiques et aux modèles climatiques à long terme dans une région donnée, qui sont influencés par des facteurs tels que la température, la pression atmosphérique, l'humidité et la précipitation. Cependant, il existe des études qui montrent que certaines activités humaines, telles que l'extraction de pétrole et de gaz, peuvent causer des séismes induits. Ces activités peuvent modifier la pression dans la croûte terrestre, ce qui peut déclencher des séismes.
Il est important de comprendre que la prédiction précise des séismes est extrêmement difficile et que les scientifiques sont encore loin de pouvoir prédire avec précision quand et où un séisme se produira. Frank Rogerbitz est un scientifique néerlandais qui a fait des prédictions de séismes dans le passé en utilisant une méthode appelée astrologie sismique. Cependant, la plupart des scientifiques ne considèrent pas cette méthode comme une méthode scientifique fiable pour prédire les séismes.
Eh bien, c'est faux. Les astres, soleil, planètes, ne peuvent pas atteindre la Terre géologiquement parlant, à part s'ils se crachent dessus comme des météorites. Le seul impact sur Terre des astres est le changement entre la marée haute et la marée basse, et c'est juste à cause de l'attraction lunaire et solaire sur les océans. Et encore, ils sont trop loin ou trop petits pour vraiment faire quelque chose. Et même si les conditions étaient favorables au mouvement des plaques à cause des astres, les humains subiront eux aussi cette force. Et si cela nous arrive, bien sûr, nous serons projetés vers l'espace. En somme, il existe de nombreuses théories et rumeurs sur les séismes, mais toutes ne sont pas basées sur des preuves scientifiques solides. Les séismes sont causés par des mouvements dans les plaques tectoniques de la croûte terrestre. La surface de la Terre est constituée de plusieurs grandes plaques tectoniques qui se déplacent lentement. Lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, l'une peut être poussée sous l'autre, ce qui entraîne une tension qui peut se libérer sous forme de séisme. De même, lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, cela peut entraîner des séismes liés à la fracturation de la croûte terrestre. Et cela est uniquement le seul élément qui peut créer des séismes.
Tant de théories et de rumeurs sur les séismes. Tous ne sont pas basés sur des preuves scientifiques solides. Certaines sont tout simplement le fruit de notre imagination. D'ailleurs, qui dit imagination dit art. Entendons donc ce que nos très chers élèves de CM1 ont à dire sur l'art des caricatures.
Bonjour, chers amis. Nous sommes les élèves des CM1. Nous avons dessiné des caricatures des célébrités de notre choix dans le cadre de la semaine de la presse. Pourrais-je vous poser quelques questions? C'est quoi une caricature, Simon?
C'est un dessin de presse qui rapporte un événement d'actualité.
Quel est son rôle, Julia? À première vue, elle fait rire, mais aussi des formes ridiculises et critiques. En fait, elle a trois fonctions. Exagérer, défigurer, accuser.
Comment les lecteurs conçoivent-ils ces dessins, Johanna?
Les lecteurs portent un regard différent sur les caricatures et chacun se fait son propre jugement.
Tu sais, Alia, ces dessins nous poussent à débattre, critiquer et justifier nos points de vue.
Quel est le lien entre la caricature et la liberté d'expression, Avier?
La liberté d'expression est un droit proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le droit d'exprimer librement ce que l'on pense dans le respect des autres. Je veux bien ajouter quelque chose, c'est que sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de pensée ni de démocratie.
Quel projet vous avez fait à la BCD dans le cadre de la semaine de la presse, Ralph?
Nous avons découvert c'est quoi la presse, les genres de médias, le dessin de presse, et chacun a reproduit une caricature de célébrité de son choix.
C'est chouette la semaine de la presse. Nous avons appris beaucoup de choses. À l'année prochaine.
La caricature reste aux frontières de l'art engagé et du journalisme. En revanche, nous voyons cette liberté dans le journalisme être menacée, notamment par la censure. Restez à l'écoute, car nous aborderons cette question dans quelques instants.
La censure est la limitation de la liberté d'expression sur des livres, médias ou des œuvres d'art avant ou après leur diffusion. La censure interdit la propagation de certaines informations que le gouvernement ne veut pas transmettre au public. Les pays qui exercent une censure très stricte sont la Syrie, la Chine, le Vietnam, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Par contre, les pays les plus lâches sont la Norvège, Finlande, Danemark et la Suède. La censure est pratiquée pour plusieurs raisons. Le contrôle politique, quand le gouvernement utilise la censure pour contrôler l'information et les idées diffusées dans la société, comme la censure de critique du gouvernement.
Elle est également pratiquée pour maintenir la normalité dans la société. La censure peut être utilisée pour protéger les enfants contre un contenu inapproprié ou pour supprimer des informations qui pourraient être utilisées par des criminels. D'autre part, la censure peut aussi être utilisée abusivement pour restreindre la liberté d'expression et la liberté de la presse. En conclusion, un équilibre doit être présent entre la protection des intérêts du public et la liberté d'expression, qui est un droit humain.
De cette façon, censure et info sur tous les fronts entrent en collision. Toujours dans le journalisme, les élèves de 4e vont nous présenter deux grandes pertes douloureuses pour notre monde et celui du journalisme.
Bonjour et bienvenue pour les nouvelles du 25 septembre 2005.
Boum! Flash info. Tentative d'assassinat de Meïssi Diack à Jounié. Nos journalistes sur le lieu du crime nous informent qu'une bombe a été placée sous le siège de sa voiture. Mais nous n'avons pas plus de détails pour l'instant.
Il y a 18 ans, Meïssi Diack, journaliste libanaise âgée de 59 ans qui travaillait à LBC, était la cible d'une tentative d'assassinat, ce qui lui a coûté un bras et un pied. Chidiak critiquait le fait que les troupes syriennes, qui, selon l'accord Taif, devaient sortir du Liban à la fin de la guerre, ne sont pas sorties. En 2019, elle était élue ministre du développement administratif et elle a gardé ce titre uniquement pour 9 mois.
I will never be silenced. The echo of freedom will prevail.
A dit Chidiak à l'occasion de la Journée internationale de la presse.
Exprimer son avis dans la presse peut conduire à une ou des tentatives d'assassinat.
Je vais vous parler du cas de Luqman Slim. Luqman Mohsen Slim était un éditeur libanais, un activiste politique et un commentateur qui a promu une culture de souvenirs pour faire face aux nombreux conflits passés et présents du Liban et de toute la région. Slim était connu pour être un critique éminent de certains partis politiques au Liban. Il est engagé en faveur de la laïcité au Liban et il dirige avec sa sœur Dar al-Jadid. De plus, il était très préoccupé par l'explosion du port et voulait résoudre cette énigme. Slim a été assassiné le 4 février 2021 alors qu'il était âgé de 59 ans car il a critiqué la corruption au Liban.
Comme vous le voyez, le métier de journaliste vient avec des risques, que leur âme repose en paix. Nous sommes de tout cœur avec tous les journalistes qui risquent sa vie pour la justice. Et nous les remercions pour tout. Ainsi, nous arrivons à la dernière partie de notre émission, le débat. Chers élèves de première A, la parole est à vous.
1er décembre 2022, 533 journalistes étaient incarcérés pour avoir exercé leur métier. Jamais RSF n'avait enregistré un nombre aussi élevé de journalistes emprisonnés. Parmi eux, on retrouve 455 hommes et 78 femmes.
86 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2022, soit un tous les 4 jours.
Un journaliste kidnappé pendant 711 jours, et oui, c'est bien Olivier Dubois. Installé au Mali depuis plusieurs années, le journaliste Olivier Dubois a été enlevé près de Gao le 8 avril 2021. En effet, Al-Qaïda se sentait menacé par le journaliste qui pourrait révéler la vérité sur la dictature qui se formait dans la région par Al-Qaïda. Depuis sa date, il est aux mains du GSIM, un groupe de jihadistes affilié à Al-Qaïda au Sahel, devenant ainsi le seul otage français connu dans le monde.
Sa famille avait lancé un comité de soutien voulant alerter le gouvernement français afin d'obtenir sa libération. Olivier Dubois a lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Face à la caméra, le journaliste expliquait avoir été kidnappé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM. Ce dernier n'obtient sa liberté que la semaine dernière, le 20 mars 2023.
La liberté d'expression est un droit fondamental qui permet à chaque individu de s'exprimer librement sans crainte de persécution. Cependant, avec la liberté d'expression vient la responsabilité. Les individus doivent respecter les limites de la loi et ne pas utiliser leur liberté pour nuire à autrui ou propager des discours de haine et de discrimination. Il est important de reconnaître que la liberté d'expression n'est pas absolue et peut être limitée en cas de menace à la sécurité publique ou de la violation des droits d'autrui.
Comme nous l'avons vu précédemment dans les interventions de nos camarades, la liberté de la presse peut être considérée comme en danger. Mais il est aussi vrai que les réseaux sociaux facilitent la liberté de la presse.
En effet, les réseaux sociaux sont des plateformes où l'on peut partager des nouvelles et des articles de presse.
Oui, et grâce aux algorithmes, ils atteindront plus de personnes qui seront tenues au courant des actualités qui se passent dans leur région, mais aussi dans le monde entier.
De plus, les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser des informations par des grands médias, comme par exemple la BBC, Fox News, ABC News, CNN et d'autres plus locaux comme MTV ou Al Jadid.
Je suis d'accord, mais ces grands médias peuvent être biaisés ou encore corrompus par les personnes qui essaient de diffuser de la propagande. Ils ne sont donc pas toujours fiables.
Ce n'est pas faux.
Mais les réseaux sociaux permettent aussi à des journalistes indépendants de s'exprimer plus ouvertement et d'atteindre plus de personnes.
J'ai entendu parler d'un journaliste indépendant nommé Pierre Abramovici. Il a appris son métier seul, en partant photographier des pays en guerre comme l'Irlande et le Liban.
Mais si je ne me trompe pas, il a quand même eu besoin de grands médias pour publier ses découvertes. Je pense qu'il avait été présentateur chez TF1.
Oui, c'est le cas. Mais imaginez comment les réseaux sociaux lui auraient facilité la tâche s'il existait à l'époque.
Je pense qu'il serait plus correct qu'on prenne un exemple plus actuel.
J'en connais un. TLDR News est un groupe d'actualité anglais qui a pour spécificité d'essayer d'atteindre les jeunes. Leur nom TLDR vient justement de l'abréviation anglaise Too Long Didn't Read, qui signifie « C'est trop long, je n'ai pas lu ». Ils font des vidéos assez courtes sur YouTube et traitent des informations dans tout le globe de manière simple, courte et compréhensible.
Les réseaux sociaux permettent de réintégrer les nouvelles générations dans le monde des actualités, car ils ont perdu l'habitude de passer beaucoup de temps devant la télévision ou la radio.
Les réseaux sociaux ont poussé le secteur de l'actualité à se moderniser, pour le meilleur dans le sens où elles sont devenues plus accessibles, mais aussi pour le pire dans le sens où certaines personnes peuvent voir les nouvelles publications comme imprécises et trop courtes pour vraiment assimiler le sujet.
De toute façon, je pense qu'on peut conclure sur l'idée que les réseaux sociaux facilitent bien la liberté de la presse car ils rendent l'information plus accessible et diffusable.
Merci pour cette riche contribution d'opinion qui ouvre la voie vers la réflexion. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Le débat reste ouvert. Et voilà, nous arrivons au terme de notre émission.
Merci à tous les participants pour avoir rendu cette émission possible et à vous pour nous avoir écoutés. Nous espérons vous revoir bientôt dans un autre épisode sur la web radio du Collège Protestant.